France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée?
Et voilà, 19h passé de 1 minute à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h à peu près, et à peu près tous les jours, et s'il y a des aléas, puisque nous sommes bénévoles et que nous avons donc quelquefois des contraintes et des empêchements. En tout cas, dans ce Canu Info de ce 13 janvier, si je ne me trompe point, on parlera d'une andouille, on parlera
d'une autre andouille.
Oui, d'un mec qui doit dégager. On parlera de Palestine et d'Israël. On parlera élections et des candidats. Tout ça, tu vas nous faire un truc là. On parlera énergie, environnement, et puis on verra parce que ça devrait déjà être pas mal.
Mais oui, mon très cher Laurent, nous allons parler d'andouillettes ce soir. Beaucoup, vous allez voir.
J'adore l'andouillette.
Oui, bah là, c'est des andouilles que t'aimes moins. Donc juste pour ouvrir un petit peu cette émission, très cher Laurent, je voudrais te parler de l'andouille de la semaine, mais précisément de l'andouille du jour. Il s'agit du maire de Nice, de monsieur Estrosi, qui, vous le savez peut-être, et vous le savez sûrement, avait dès le départ pris de grandes décisions pour lutter contre l'expansion du coronavirus et donc de la Covid qui va avec. Hein, il avait mis en place des centres de vaccination pour la troisième dose avant même que ce soit acté au niveau national. Donc, monsieur Estrosi, il a toujours des grandes idées. Et je rappelle juste qu'il y a 5 400 000 personnes qui ne sont pas vaccinées du tout contre la Covid en France. Et monsieur Estrosi, Christian de son prénom, ça l'énerve. Et donc ce jeudi matin, sur BFM TV RMC, il a expliqué qu'il était favorable à l'obligation vaccinale. Bon, jusque-là, il pourrait y avoir débat sur le sujet. On peut dire que le débat n'existe pas du tout, mais il le lance. Et il dit: ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars ou au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir le droit d'accès à l'assurance chômage.
Alors c'est... Ouais, c'est double peine en fait.
J'ai cherché. Parce que, bon, le confinement à la maison, j'ai lu des arguments.
En même temps, s'ils sont chômeurs, ils sont peut-être plus chez eux vu le temps qu'il fait que dehors.
Il nous parle pas des chômages. Il nous dit pas les chômeurs. Il nous dit: il ne devrait pas avoir le droit à l'assurance chômage. Alors là, on se dit, pourquoi?
En fait, ça veut dire que les non-vaccinés sont tous peut-être des chômeurs.
Ils vont enlever tous les droits, comme ça peut se faire dans certains endroits. Ce qui est une réponse quand même à la fois violente, discriminante, un peu tentante. Liberticide, hein, quand même, disons-le. Une réponse un peu particulière et... On n'est pas très étonné non plus de ce genre de propos dans la bouche de monsieur Estrosi. Mais voilà, il y va à fond, parce que c'est vrai que on est dans une bonne période où les idées d'extrême droite, ça marche bien. Donc autant, comme en Chine, garder les gens enfermés chez eux.
Ouais, c'est vrai,
c'est vachement mieux.
Moi, je suis pour. Hein.
Et puis de leur enlever des droits aussi. D'ailleurs, ils devraient plus être. On devrait leur enlever leur carte d'identité, leur passeport.
Ça devrait même plus être des humains.
Hein, non. Je veux dire, voilà. Et puis d'ailleurs, si on pouvait les éjecter de France, ça pourrait être pas mal. Voilà, mais monsieur Estrosi a toujours des grandes idées.
Voilà, que l'on s'énerve sur ces gens qui vont embêter les soignants, parce que les soignants et soignantes aimeraient plutôt soigner les gens qui ont d'autres maladies que la majorité des gens non vaccinés.
On
le conçoit. Voilà, exactement. Mais qu'on balance des trucs comme ça, c'est quand même assez
disons que c'est un
assez
petit
triste.
Peu... Ah ouais, et puis la démocratie, elle en prend un petit coup.
En même temps, M. Estrosi, il a toujours été assez loin des idées démocrates. Hein. Il aime bien surveiller la population, il aime bien virer les pauvres du centre-ville de sa ville, il aime bien des trucs comme ça, tu sais.
Bon, alors, on va parler de M. Blanquer, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vas éviter quand même de tomber dans le dégagisme.
Hein, si, moi, Blanquer dégage. Moi, je l'ai dit, d'accord. Ça y est, c'est fait. Bon, il y avait des pancartes
et tout. On est dans le dégagisme, donc, ce soir.
Oui, non, mais il y avait des pancartes. Hein. Moi, je lis ce qu'on a pu voir. Donc, enseignants et personnel scolaire, tous ensemble, était en grève ce jeudi 13 janvier. Alors, moult raisons, hein, on peut citer l'exaspération de la valse des protocoles sanitaires liés à l'épidémie du Covid. On peut comprendre qu'il faille adapter les protocoles sanitaires par rapport aux contraintes sanitaires, Bon, vu comment c'est fait, c'est pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. On rappelle que les protocoles sanitaires sont annoncés dans les médias, dont certains payants, et pas du tout aux enseignants ni aux responsables, dans les temps, hein, c'est annoncé au dernier moment. Donc il y a un mépris total des enseignants de la part de Monsieur Blanquer. Il y a aussi les réformes imbéciles qu'il a mis en place, le manque de moyens généralisé dans les écoles, le maintien des épreuves du bac au mois de mars, personne ne comprend, avec la quantité d'absents, hein, ça monte jusqu'à un tiers, peut-être même plus, hein, dans certaines classes. Moi, j'ai pas vu plus d'un tiers pour l'instant, mais un tiers d'absents, c'est quand même déjà pas mal dans une classe. Bon, bref, tout le monde était ligué contre ce ministre pour dénoncer son incompétence, et voilà. Bon, bah parce que c'est une journée de grève, on rappelle, symboliquement on montre qu'on n'est pas d'accord. Les plus courageux et les plus courageuses sont allés braver le froid pour dire ce qu'ils pensaient de leur patron, hein, M. Blanquer. Mais en dehors de tout ça, ça n'ira pas bien plus loin que ça. Certes, ça embête quand même pas mal, puisqu'on est à quelques mois de la campagne, de la présidence, de l'élection présidentielle. Et donc le rejet quasi général, hein, dans l'enseignement, mais dans, au sens large, c'est-à-dire pas que les profs, les personnels scolaires, les directeurs, directrices, enfin tout ça. Hein. Tout le monde rejette Blanquer, ça emmerde Macron, et finalement c'est un bon retour des choses de pouvoir emmerder le président de la République et futur candidat. On notera quand même que les chiffres sont toujours très éloignés entre les 38,5% officiels pour le ministère et pour le SNUIPP, le syndicat majoritaire dans le primaire, on est à 75% de grévistes. Grosso modo, effectivement, on était à plus de la moitié des personnels de l'éducation nationale en grève, ce qui est énorme.
Oui, parce qu'on a pu lire des communiqués, des invitations à la grève groupe moins mis en avant en général que les enseignants du primaire ou du secondaire dans les médias qui ont annoncé faire grève, c'est-à-dire le personnel administratif,
la vie scolaire notamment,
la vie scolaire, et puis même des syndicats qui sont peu offensifs avaient annoncé aller dans la rue. Donc on a quand même un mouvement solidaire unanime, ouais, il faut le dire, il faut payer les voilà, qui est en colère et qui en a, mais alors, franchement, ras-le-bol a priori quand même.
Ouais. Je crois qu'on peut dire ça, c'est d'où l'idée de dégagisme, hein. Plus personne ne peut voir Blanquer en peinture, ni l'entendre à la télé, ni le voir ni le lire s'exprimer dans les journaux, parce que c'est comme ça qu'il communique avec ses salariés quand même, hein. Il leur parle jamais directement, c'est-à-dire par les voies hiérarchiques, non, surtout pas, hein. Donc c'était de la mobilisation aujourd'hui. Bon, voilà, c'était assez à la fois symboliquement sympathique et pas forcément très utile. Mais parce que ça dure qu'une journée et que ça bloque pas le système, hein. On rappelle que les grèves d'un jour dans l'éducation, dans les personnels de l'éducation sont les spécialistes, sont en général très peu utiles. Bon, bref, mais Monsieur Blanquer, c'est pas que ça. C'est même pire que ça. J'ai découvert, je savais que je l'aimais pas, je le portais pas dans mon cœur et qu'il avait les idées opposées aux miennes. Mais là, le voir soutenir des idées portées par la droite et surtout par l'extrême droite, ça m'a juste donné envie de vomir. Alors, je vais rentrer dans le détail de ce que c'est, mais je vais rappeler quand même le sujet, puisqu'on est dans l'idée de combattre de toutes les polémiques autour du wokisme, ce nouveau mot anglo-saxon que personne veut traduire correctement et veut voilà, tout le monde est fan. Blanquer parle du wokisme. Lui qui est quand même ministre de l'éducation nationale refuse d'utiliser un mot de la langue française pour décrire un phénomène monté en épingle par les fachos de tous bords. Bon, c'est déjà un signe que ce gars, il n'est pas vraiment récupérable non plus pour le système, hein. Donc voilà, bon, aujourd'hui, hein, quand on est de droite ou d'extrême droite, il est devenu cool d'être anti-woke, tout ça, de dénoncer le wokisme. Avant, il dénonçait les bobos, après les islamo-gauchistes, et maintenant les woke. Donc c'est un peu le nouveau truc à la mode chez les gens de droite et d'extrême droite, ces réactionnaires que nous connaissons bien. Tout ça pour ça leur permet avant tout, parce que c'est instrumentalisé, ça leur permet surtout d'avoir une politique antisociale, un discours anti-progressisme, en fait anti-écolo, et de reporter, d'avoir un discours raciste qui se glisse discrètement, comme ça, au nom de l'anti-wokisme. Ben, c'est de ça dont il est question. Et la semaine dernière, on était le 7 et le 8 janvier, un truc qui avait été monté qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme. Oui, parce que bon, vous savez qu'il y a un mouvement décolonialiste. Il y a plein de trucs à dire sur ces mouvements qui sont des fois très identitaires et nauséabonds aussi. Mais c'est pas la question de ce sujet-là aujourd'hui. Il faut quand même déconstruire, taper dans le colonialisme. Hein, il y a quand même des choses à faire. Donc ils avaient monté, le gouvernement, l'Observatoire du décolonialisme et le Collège de philosophie. Ces deux trucs ensemble, on organisait un colloque, yes, qui réunissait une cinquantaine d'universitaires, des essayistes, des éditorialistes, bon, de droite ou d'extrême droite, hein, parce que sinon ça marche pas, forcément. Et le but, c'était de se battre, je cite, contre les dégâts de l'idéologie de la déconstruction et de la cancel culture. Ah ouais, parce que cancel culture, c'est pareil, c'est bien, les mots anglo-saxons, hein, les gars. Donc ils dénoncent des politiques qui viennent des États-Unis d'Amérique, mais ils utilisent le vocabulaire anglo-saxon, comme quoi la cohérence fait pas non plus partie de leur manière de fonctionner. Et donc, ils font croire que l'université française serait phagocytée par toutes ces idées-là. Alors les mecs, ils sont pas allés à l'université depuis longtemps, hein, parce que ça parle pas de wokisme tous les jours ou de décolonialisme, enfin toutes ces choses-là. Non, en fait, il y a un certain discours à porter par certaines personnes, mais qui sont spécialistes d'un domaine concerné par l'application de tout ça. Et c'est pas du tout ce mirage que construit la droite et l'extrême droite, bien évidemment. Et en soutien à tout ça, Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a prononcé le discours d'introduction du colloque. Et là, on se dit, waouh, incroyable, devant 600 personnes, en direct ou à distance, hein, parce que ça se fait un peu en ce moment. Il a dit que le colloque avait pour but, je cite, de passer au crible la pensée décoloniale. Enfin, c'est mal, la pensée décoloniale. La théorie du genre, ah ouais, c'est aussi un truc inventé qui n'existe pas, vous savez, par l'extrême droite. Et la cancel culture. Je cite ces mots, je vais citer plein de mots à lui. Et alors, dans son introduction, il a dit qu'il fallait adopter une posture offensive sur le plan intellectuel contre ce wokisme. Au moment où, je cite toujours, il y a une prise de conscience que nous devons déconstruire la déconstruction et arriver à de nouvelles approches. Alors, Blanquer, il décrit une France attaquée par ce courant d'idées importé des États-Unis. Et pour aller plus loin, il a dit que c'était un virus et qu'il fallait trouver le vaccin à ce virus. Et qui est responsable de ce virus? Il a dit, mais en fait, c'est un retour de bâton, parce que c'est les intellectuels français des années 70, notamment Gilles Deleuze, Jacques Derrida et Michel Foucault, donc des grands philosophes quand même. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont dit ou écrit, hein, mais c'est quand même des mecs qui sont un peu plus intelligents que M. Blanquer. Et donc il a dit qu'il fallait, c'était à cause d'eux qu'on avait ce wokisme et cette horreur absolue d'après lui. Hein. Alors c'est intéressant de voir un être comme un ministre, quelqu'un qui est plutôt méprisable et ultra méprisant en permanence, en vient à mépriser des intellectuels comme Deleuze et Derrida, alors que lui, il est juste rien par rapport à ces gens-là. C'est assez incroyable d'oser instrumentaliser en tant que ministre la lutte contre ce truc qu'est le wokisme et de détruire une partie de ce qu'il appelle, lui, la French Theory, c'est-à-dire ces intellectuels progressistes des années 70. Donc, il y a un vrai mépris, hein, pour ces philosophes, pour la pensée progressiste, en fait. Et c'est là où on se rend compte que ce mec, il est vraiment de droite, voire d'extrême droite. Et qu'il est même pas centriste. Hein. Il est vraiment, vraiment très à droite par sa détestation de tous les intellectuels progressistes que la France a pu avoir à un moment où la France était un peu une sorte d'exemple en Europe, même si c'est toujours un peu ridicule d'être un exemple de quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, bref, conclusion. Blanquer est pas prêt de devenir prof de philo. Ou alors ça va être terrible. Bref, il a même pas été capable de faire son travail correctement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, les profs n'ont toujours pas de masques chirurgicaux fournis qui normalement c'est obligatoire hein, pour les patrons de fournir des EPI, des équipements de protection individuelle. Monsieur Blanquer a fourni des masques en tissu qui ne sont plus recommandés pour le virus depuis le variant Delta, donc ça veut dire à peu près un an. Mais il s'en fout de la santé des personnels, il s'en fout de la qualité intellectuelle des Deleuze, Derrida et autres Foucault. Bon, ben voilà, j'espère qu'il va arrêter d'être ministre et que personne ne lui proposera un poste de philosophe. C'est à toi. J'ai fini de m'acharner sur.
Je vais te laisser, Blanquer. Après cette page d'actualité, de faire une page internationale, s'il te plaît.
Ah oui, ça, alors attends, parce que du coup, j'ai.
C'est moi qui commande aujourd'hui à la place du déroulé.
C'est toi qui commandes toujours, ils ne le savent pas.
Ils le savent pas. Je te demande donc de bien vouloir faire ton sujet sur l'international, s'il te plaît.
C'est toi qui fais les déroulés. Donc, oui, j'ai un sujet sur l'international, très court, mais quand même, hein, il faut en parler. On va revenir sur la situation israélo-palestinienne, parce qu'il y a eu quelques news, et du coup, c'est l'occasion de revenir dessus. Alors, plusieurs milliers de Bédouins ont encore manifesté aujourd'hui. C'est la troisième journée consécutive qui manifeste. Alors, on se situe dans le désert du Negev, là où il y a ces tribus de Bédouins, ces villages Bédouins, et qui met de fortes pressions sur la coalition politique au pouvoir en Israël. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Dans les faits, ça a commencé mardi soir, des populations bédouines ont manifesté contre la plantation d'arbres. Alors vous allez dire, ils sont cons, pourquoi ils sont contre les arbres ? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est une plantation politique, faite par le Fonds National Juif, donc un organisme qui relève de l'Organisation Sioniste Mondiale, qui gère les forêts en Israël, et qui est un truc nationaliste. Hein. Et le but, en allant planter ces arbres, c'est pas un truc écolo, c'est un truc, regardez, nous on fait des choses dans le désert, et voilà. Et donc les Bédouins le vivent très mal, eux qui sont sur ces terres depuis des années, ils étaient là avant la création de l'État d'Israël. Ils habitent, pour certains et pour beaucoup, dans des villages qui sont non reconnus par l'État d'Israël, et ils sont vraiment dans des situations qui sont compliquées vis-à-vis de l'État d'Israël, qui les reconnaît peu, pas ou mal. Hein. Voilà où on en est. Donc ils se sont rebellés, ils ont balancé des pierres sur des voitures qui passaient sur la route, ils ont bloqué une ligne de chemin de fer, ils essayent de se faire entendre. Hein. Alors, c'est la mobilisation actuelle, ça fait 3 jours que ça dure. C'est rare hein, que ces Bédouins fassent la une de l'actualité. En général, dans la colonisation israélienne, on est plutôt sur la Palestine qui est occupée. Eux, ils sont occupés depuis 1948, hein, depuis la création de l'État d'Israël. Et ils sont très peu visibles parce que ils se mettent pas en avant, c'est des tribus, voire des villages, et il n'y a pas de gros collectifs qui portent leurs revendications. Et ils en prennent plein la gueule, donc du coup depuis 1948.
Hein. Voilà. Faut préciser que ne pas être reconnu quand on est un village, ça veut dire ne pas avoir d'existence administrative, ne pas avoir les moyens qui vont avec, ne pas avoir de suivi pour les écoles, ne pas avoir de suivi pour tout ce que vous pouvez avoir quand vous habitez dans un lieu et que l'État va vous amener, ou en tout cas une région, un département comme on pourrait avoir en France. Ne pas exister, c'est être invisibilisé, et n'avoir aucun moyen financier, et n'avoir aucun moyen politique, puisque vous n'existez pas, vous ne pouvez pas avoir de représentant. Donc c'est ça veut dire ne pas être présenté, ne pas être reconnu. C'est ça la difficulté aujourd'hui aussi que ces personnes rencontrent.
Alors il y a eu quelques progrès, il faut quand même le signaler. Quelques villages ont été reconnus, il y a même eu des élections municipales dans quelques villages il y a quelques temps. Là il y a un projet d'en reconnaître encore d'autres, mais on est très loin d'une vie normale pour ces gens, dans un état normal, démocratique. Voilà, on en est très loin pour les Bédouins. Du coup, dès que voilà, il y a une instrumentalisation politique de leur lieu de vie, comme c'est le cas avec cette plantation d'arbres, et ben ça réagit et c'est bien que ça mette à mal la coalition au pouvoir parce que ça va obliger peut-être à prendre des vraies décisions pour reconnaître et les aider, hein, parce que c'est de ça dont il est question. Pendant ce temps-là, bien évidemment, la colonisation continue. Petit bilan de ces 3 dernières semaines, 15 derniers jours. Donc, on a appris début janvier hein, qu'Israël approuvait la construction de 3557 nouveaux logements Donc, dans le Jérusalem Est, c'est-à-dire la partie occupée, la partie qui est palestinienne, ça sera soumis à approbation le 17 janvier, mais ça va passer comme d'habitude. Il est à noter d'ailleurs que le rapport officiel du ministère palestinien des Affaires étrangères a fait un bilan de l'année 2021. Donc, 12 000 nouvelles constructions dans des territoires occupés illégalement par Israël et 177 bâtiments ou maisons détruites par vengeance, par l'État israélien. Vengeance collective, hein, on attaque les familles, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui est mal vu par Israël, et on fait une punition collective. Hein. C'est un truc interdit au niveau international, mais qu'Israël pratique avec un immense plaisir, vraisemblablement, et en tout cas, pas mal. Enfin, souvent, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, du côté du Golan, on n'en parle pas souvent du Golan, et ça bouge aussi, c'est un peu compliqué. Donc le Golan, on rappelle, il est occupé hein, depuis un certain temps. Le Golan est censé appartenir à la Syrie, en tout cas c'est un territoire syrien au départ. Et on apprend à la une du journal syrien Al-Watan, c'était le 27 décembre, je cite le titre, c'est « L'ennemi a approuvé un plan pour doubler le nombre de colons dans le Golan occupé ». Alors vous me direz, ça vient d'un journal syrien, mais malheureusement les chiffres sont réels, puisque Al-Watan annonce 11 000 nouvelles habitations et il y a eu confirmation après là-dessus. D'ailleurs, le projet israélien global sur la colonisation du Golan prévoit d'augmenter entre 50 000 minimum à 100 000 le nombre de colons d'ici 2025. Donc il y aurait au moins 7 300 nouvelles habitations à Katzrin, la principale colonie israélienne du Golan, et la construction de deux nouvelles colonies habitant au moins 4 000 habitants chacune. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 000 colons israéliens qui vivent dans le plateau du Golan, à côté des 23 000 habitants historiques de ce plateau, qui sont donc officiellement, normalement, des Syriens, et qui sont des Druzes, en fait, hein, une confession de confession druze, c'est le côté religieux hein, de la chose. Donc voilà. Alors, évolution qui réagit, personne. On se rappelle qu'en mars 2019, le président américain de l'époque, Donald Trump, avait signé un décret qui reconnaissait la souveraineté d'Israël sur le territoire du Golan. Alors c'était à rebours de la position des États-Unis, bien sûr à rebours, à l'inverse, à l'opposé des décisions internationales. Hein. C'est une occupation illégale en termes de droit international. On pouvait espérer que ce décret soit annulé, abrogé, on utilise le terme qu'on veut, par le gouvernement Joe Biden. Eh ben non. Joe Biden marche sur la politique derrière. Il tient la même politique en fait que Donald Trump. Il le fait plus discrètement et du coup il se fait moins attaquer. C'est ça qui est triste. Hein, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'avait affirmé. Il avait dit il y a pas très longtemps, le Golan est très important pour la sécurité d'Israël. Laissant entendre que le gouvernement Biden ne referait rien et il n'a rien fait d'ailleurs pour condamner l'occupation illégale du Golan. Donc voilà, tout va bien pour dans le meilleur des mondes occupé. De cette région du monde.
Et ne pas confondre Al-Watan et El-Watan. Al-Watan, donc média syrien, El-Watan, média algérien.
Tout à fait.
Voilà, c'était juste parce que peut-être que vous avez tiqué dans votre cerveau, vous vous êtes dit, mais c'est pas syrien ça ? Eh ben si, si. Nous allons donc parler des folles élections qui s'annoncent. Ah non, mais avec moi, je vous inquiétez pas.
T'as envie de faire ça en ce moment ? Bon, vas-y.
Bah écoute, le dépôt définitif des candidatures, c'est le 4 mars prochain. D'ici là, je pense qu'on peut rigoler encore un petit coup. À vrai dire, on peut, je pense, rigoler jusqu'au 10 avril 2022, hein, date du premier tour de cette élection présidentielle. Il y a quand même un petit peu moyen, alors bon, c'est vrai que depuis la semaine dernière, cette histoire de parrainage a continué à faire du bruit. Bon, on n'a pas dit la semaine dernière, mais c'est vrai que dans une démocratie directe, on ne devrait pas avoir ce principe-là. Tout le monde devrait pouvoir se présenter. Nous sommes bien d'accord. Mais c'est pas comme ça que ça marche, et donc ça fait continuer à faire causer. Et puis il y a quelques sondages qui bouleversent un petit peu, je pense, les du côté de Monsieur Macron, les équipes. C'est que Monsieur Macron baisse particulièrement dans les sondages, ses deux principales concurrentes, puisque ce sont deux femmes, Madame Le Pen et Madame Pécresse, sont à égalité dans certains sondages, et Monsieur Zemmour arriverait derrière. Hein, là, arriverait derrière, donc en quatrième place. Donc on s'éclate. Alors du côté de la gauche, personne ne dépasse les 10% dans ce sondage que j'ai sous les yeux. C'est marrant les sondages quand même. Hein. Et puis il y a Madame Hidalgo, par exemple. Bon, je veux dire, vous voyez la pâquerette ? Ben voilà, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner. Alors je me suis dit, on pouvait faire un petit tour d'aujourd'hui, qui est candidat à avoir des parrainages. Parce que pour l'instant, on en est quand même un petit peu là, il faut bien le dire. Et il y a quand même pas mal de monde. Et en général, il y a tous ces gens qui finissent par avoir quand même des parrainages. Ce que j'ai pas dit la semaine dernière, c'est qu'il faut donc 500 parrainages. Et il faut que ça soit dans 30 départements différents. Vous voyez, donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu du mélange. Alors, déjà, bon, je vous annonce qu'on en a perdu en route.
T'as perdu qui ?
Ben, on a perdu Arnaud.
Le Montebourg ?
Oui, ça y est, c'est fini. Hein,
voilà. C'est vrai.
Il paraît qu'il n'arrive pas à avoir ses 500 parrainages, donc il lâche l'affaire. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a annoncé. Bon, voilà, ça en fait un de moins. Alors sinon, je vais me baser, je vous le lis tout de suite, sur un document fait par BFM TV, mais c'est ce que j'ai trouvé plus lisible. Voilà. Vous êtes tous d'accord ?
Oui.
Allez, allons-y. Non, mais il faut être un peu honnête hein, quand même sur les documents que nous utilisons. Alors, nous avons un certain nombre de personnalités, comme Nathalie Arthaud, hein, une de Hello, qui continue à se présenter. Nous trouvons aussi François Asselineau. Lui aussi, hein, ça vous parle avec l'UPR, hein, l'Union Populaire Républicaine, qui continue lui aussi se présenter quand
alors,
même.
Alors, à l'opposé politique de Nathalie Arthaud, bien évidemment.
Je crois que la dernière fois, alors donc, il avait fait moins de 1% hein, quand ouais. même hein, des voix. On retrouve aussi Nicolas Dupont-Aignan.
Autre membre de l'extrême droite.
Donc, hein, bon.
Assez proche d'Asselineau.
Ouais. Je vous rappelle, hein, je vais essayer de vous donner à chaque fois quand même ouais. le nom de ces jolis partis. On retrouve alors d'autres gens qui ne vont pas du tout vous parler. Ou un petit peu, ou peut-être, ou voilà. On retrouve Marico. Marico, elle est la mère de Tillois-les-Marchiennes. C'est dans le Nord. Voilà, par exemple. Et puis on retrouve.
Et c'est
quelqu'un...
quoi son parti, elle ?
Eh ben. Éric Drouet. Éric Drouet, ça vous parle ?
C'était un
gilet jaune.
Ouais, un mec un peu.
Voilà, donc lui, pour l'instant, il n'a pas de parti, mais il est gilet jaune. Ouais. Voilà. On retrouve aussi Clara Egger, qui elle est espoir RIC 2022. Donc on est dans cette mouvance hein, qui est apparue ces derniers temps, elle est enseignante. On retrouve Fabrice Grimal aussi, qui est donc lui à la Concorde citoyenne, militant gilet jaune, lui aussi, ouais. c'est sa représentation.
C'est confusionniste avec pas mal d'idées de voilà,
je connais. Alors on reviendra peut-être un peu plus précisément, mais c'est vrai que ça rassemble la Concorde citoyenne, Solidarité Progrès, le parti de Jacques Cheminade, enfin tu vois.
Ouais, voilà, c'est voilà. pas bon.
Donc bon, voilà. Non, mais si je voulais te donner
ça
raison.
Ça sent mauvais, quoi.
Je veux ouais, te ouais. donner raison ou tard, mais.
C'est pas des militants d'extrême gauche.
Donc évidemment, après, j'ai parlé tout à l'heure de Madame Hidalgo, qui, bon, voilà. Elle a un petit parti qui s'appelle le Parti Socialiste.
Ouais, qui est devenu petit.
Bah, petit, hein, je suis désolé, hein, il faut dire l'arrêter. Ouais. On a donc Monsieur Jadot, bien évidemment, hein, que nous voyons bien. On a. Aussi Jean Lassalle, résistons. Hein.
Oh, putain.
Ah, ouais. Pas de gros mots, s'il te plaît.
Pardon, il est encore là. Et donc, le parti animaliste.
Alors, attends. Je vais d'abord finir ma petite liste.
Ah, oui.
Nous retrouvons Anas Kazib, qui est à la Révolution Permanente. Tu sais, c'est une.
C'est le NPA qui s'est scindé, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, exactement. Il est syndicaliste à Sud Rail. Donc, on a des gens hein, à l'extrême gauche. Et puis, on a appris la candidature de Gaspard Koenig, qui donc, a monté son parti qui s'appelle Simple. C'est un essayiste, un philosophe. Lui, il se présente comme le seul vrai libéral de cette campagne présidentielle.
Ah oui, un vrai libéral de chez libéral, ouais, à la Madeleine, tout ça. Là.
C'est marrant parce que Gaspard Koenig, il a fait, on va dire, sa jeunesse au Parti communiste. Parents plutôt de gauche, et aujourd'hui il se présente comme il est par exemple pour la légalisation du cannabis,
ah bah,
un
comme,
vrai libéral,
comme les vrais libéraux.
Il est pour le revenu minimum de quelque chose, hein, voilà, on reviendra sur cette
à la place des aides sociales en fait.
Et alors. Mais voilà, c'est un vrai libéral, hein, voilà, et il vient donc de faire son entrée dans ses candidatures. On retrouve Georges Kuzmanovic. Alors lui, il a été à la République insoumise, à la France insoumise, et aujourd'hui il est au Parti République souveraine.
Ouais.
Comme quoi, on fait des fois des petits bons comme
ouais,
ça.
Ouais. Ben, ouais, c'est des
soirées. On retrouve Alexandre Langlois qui est au syndicat Vigie. C'est un ex-flic.
Flic, bah oui, du coup.
Voilà. Voilà. Et donc son parti s'appelle Refondation, lui. C'est chouette, hein, comme moi aussi.
Il doit pas être à l'extrême gauche.
Comment te dire ? Alors ensuite, on retrouve Pierre Larouturou. Son parti, ça s'appelle Nouvelle Donne. Il a été au Parti Socialiste, ce micro-parti actuel. Et puis, il a monté donc, son mouvement Nouvelle Donne.
Il y a un moment déjà. Hein.
Ouais. Et puis, lui, à la rigueur, il était dans la primaire populaire. Enfin, sauf que tout le monde l'ignore. Voilà, c'est marrant quand même, cette gauche que tout le monde ignore. Et on trouve aussi Gilles Lazzarini, qui lui a monté le parti qui s'appelle P5, parti politique pour la paix et la protection de la planète.
Ah, il a que les P, lui, c'est pour ça qu'il s'appelle P5.
C'est pas bien, mal. T'as
bien vu, trouvé comme
ton cerveau.
Bravo, mon gars.
donc, il est
écolo de
homme d'affaires.
C'est ça, écolo de droite. Moi, je l'ai senti venir, lui.
Donc, on a les, évidemment, les Mélenchon, les Macron, les Le Pen, les Pécresse, voilà.
Bon, cela, on les connaît. Bon,
hein. Je vais même aller plus loin. On a les Philippot et les Poutou. Je ne suis pas en train de vous faire un extrême droite, l'extrême gauche. Je suis en train de
dire ouais, parce que tu dis pas du mal de.
Les Roussel, oui, tu m'embêtes, là, avec Monsieur Poutou. Philippe est très sympathique, mais ma foi, tu m'embêtes. Fabien Roussel, qui a fait parler de lui ces derniers jours avec son saucisson, son
communiste.
Vin et voilà, son banquet. Et Christine Taubira, qui a priori devrait venir à Lyon donc, pour annoncer sa candidature.
À la Croix-Rousse.
Monsieur Zemmour. Et donc, je vais continuer avec les petits qu'on connaît pas bien, mais qui sont rigolos tout plein. Antoine Martinez, ça vous parle pas peut-être, général de l'armée de l'air à la retraite, il a été signataire de la fameuse tribune des militaires dans Valeurs Actuelles.
Ah, le truc où il voulait faire un coup d'état là.
Ça s'appelle Volontaires pour la France, son parti.
Ah ouais.
Voilà, retenez ce nom, Antoine Martinez quand même, parce que ça vaut le coup d'œil. Hein. Alors attendez, je continue ma petite truc, si mon machin, il veut bien m'en donner la main. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Tout ça, je vous en ai parlé.
Bon,
alors,
le parti animaliste.
Non, Alors, Antoine Vécher, vous l'avez oublié, celui-là, il y a 72 ans maintenant quand même.
Hein. La marmotte est encore là.
Mouvement écologiste indépendant. Il a été quand même candidat des Verts en 88, hein, souvenez-vous.
Ouais,
c'est une autre époque.
Oui, tout à fait.
Et donc.
Il est dans cette écologie, bon, un peu de droite, depuis longtemps quand même. Hein.
Voilà, et rien pour toi, lui. Pour terminer, Madame Hélène Thuy, parti animaliste.
Ah.
Avocate, c'est la première fois qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Voilà, c'était juste pour terminer.
Elle posera avec une photo de chat et ça lui fera quelques voix.
Bah, c'est vrai qu'il nous aurait.
La dernière fois, c'était un peu ça. Hein, tu sais, il y avait une élection, ils avaient
posé des photos. Très bien les affiches, elles sont encore entrées dans mon cerveau. Alors donc, comme je vous le disais, il y a ces sondages qui arrivent avec ces histoires de parrainage parce que le sujet n'est pas clos. Il faut bien le dire quand même. Donc il y a une folle ambiance. Moi, j'appelle ça une basse-cour, puisque il y a eu des rumeurs. Expliquant que du côté des Républicains, on faisait tout pour que M. Zemmour ait suffisamment de parrainage pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
Pour prendre des voix marines.
Voilà. Donc,
c'est beau la politique politicienne.
Alors, on s'offusque dans une partie des Républicains, mais dans une autre partie, on semble sous-entendre que peut-être bien que ça serait bien pour la démocratie que M. Zemmour y soit là, à côté de Mme Marine Le Pen.
Dans toutes les élections, il y avait ça, sur notamment Lutte Ouvrière, où il y avait des maires de droite qui donnaient les voix, les signatures à Lutte Ouvrière, avec des gens qui disaient « Ouais, mais c'est juste pour faire que le PS, il ait moins de voix. » Donc en fait, ce jeu de politique politicienne qui est nul, mais qui est lié au système électoraliste de la démocratie représentative, voilà, c'est toujours un peu la même histoire, du coup. C'est juste ridiculement drôle.
Donc ça, c'est aussi l'affaire de cette semaine, hein, puisque je vous le disais, là, hein, l'histoire des parrainages, c'est pas clos. On en est toujours à se demander qui va les avoir. Dans toute cette liste que je vous ai faite, on pourra la mettre
à jour.
À jour, donc le 4 mars 2022, quand les candidatures seront officielles.
Je crois que la partie animaliste, elle a déjà la moitié, je crois.
Mais tout le temps. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a. C'est extrêmement intéressant de suivre aussi. Et c'est pour ça que la transparence, c'est pas intéressant. Il faut que déjà, si jamais on en est obligé de passer par ce truc qui est pas très démocratique, d'avoir des parrainages pour une élection directe, c'est que voilà. Bon. Alors, Guillaume Pelletier aussi a fait beaucoup causer, puisqu'il s'est barré des Républicains, le traître.
Ils l'ont traité de girouette, mais en fait, il a toujours été.
Girouette.
Oui, girouette, mais en fait, cohérent dans son girouettisme. Il n'est jamais allé à gauche, ce mec.
Zemmour, c'est ça que je. Oui. Donc, au cas où vous l'auriez raté, hein, donc il a rejoint Recontact. Hein, parce que c'est vachement bien ça aussi comme.
Et je crois qu'il est parti avec un fichier.
Voilà. Donc il appelle les électeurs républicains à rejoindre M. Zemmour et son parti Reconquête. Donc il a écrit grâce à ce fichier. Du coup, Saint-Merne,
qui est pas lui.
Christian Jacob, qui a envoyé une lettre à la CNIL pour dire que c'était franchement dégueulasse d'utiliser de manière frauduleuse le terme de Monsieur Jacob, les fichiers, puisque seuls les cadres du mouvement peuvent les consulter. Donc ça claque, hein, c'est aussi c'est la basse-cour, parce que Guillaume Pelletier,
c'est quand même hyper malhonnête ce qu'il a fait, il a piqué le fichier des Républicains pour s'en servir.
Ouais, mais lui, il explique qu'il a été ancien cadre un jour, et que donc du coup, il a eu le fichier, et que quoi, il pouvait... Hein,
je pense que ce mec, il a aucune conscience, c'est juste un escroc.
Zut. Donc du coup, ça, voilà, ça s'écharpe un peu aussi sur les réseaux sociaux de tous bords, parce que chacun il met sa petite phrase en disant t'es un beau salopard. C'est un peu globalement entre les lignes ce qui a été écrit.
En même temps, ils en auraient pas parlé, personne n'aurait su qui c'était parce qu'on se rappelle jamais de lui. Il est insignifiant, je pense.
C'est pas totalement faux. Et puis il y a eu cette histoire de cette semaine aussi que, Madame Hidalgo, quand les gens vont interroger des gens dans des endroits dans la France, beaucoup de gens ne savent pas qui elle est. Ça reste
la maire de Paris, mais
la maire de
Paris
qu'une personne connaît. Elle a pas eu une grande histoire au Parti socialiste. Faut dire que comme c'est un micro-parti, les gens s'y intéressent plus trop à ce micro-parti quand même. Donc c'est un vrai problème pour elle. Existait même moi juste avant les vacances, j'avais fait une boulette en disant peut-être qu'elle va se présenter.
Alors et tu m'avais dit à la sortie, ouais.
Mais en fait Delphine, elle est déjà candidate. Et j'ai dit ah bon, mais c'est vrai, j'ai oublié, dis donc, parce que. Elle n'arrive pas à exister. Alors déjà, son parti n'existe plus. Elle a la moitié de ses camarades de parti qui soutiennent d'autres gens.
Ouais.
On ne sait plus bien qui d'ailleurs. Certains derrière Madame Taubira, donc derrière Nouvelle Donne, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc ils sont nulle part parce qu'ils se cachent. Hein, ils attendent juste les élections locales pour pouvoir faire quelque chose.
Il y en a quand même beaucoup qui sont allés chez Macron. Hein.
Et puis, mais ceux-là, ils sont partis déjà depuis un moment, tu veux. Je veux dire, voilà. Donc. Il y a comme ça, et c'est vrai, des candidats et des candidates qui ont du mal à exister, mais parce que si tu es au parti animaliste, à la rigueur, tu as un sujet, une thématique qui peut aujourd'hui intéresser les gens.
C'est cohérent, tout à fait. Ils défendent un vrai truc que les autres ne défendent pas. Ou mal. Voilà. Les Verts un peu quand même. Mais
je veux dire, il y a un vrai truc. On va revenir d'ailleurs avec une amie de Madame Pécresse tout à l'heure. Chacun et chacune essaye aussi de sortir un peu de ses positions. Donc c'est vrai que Madame Hidalgo, elle a du mal, d'après ce qu'on en sait, parce que les médias ils sont pas gentils, à remplir des toutes petites salles. C'est-à-dire que là on est même plus à remplir des salles de 1000 places ou de 500 places. Hein. C'est qu'elle a du mal à y aller. Bon, faut dire que depuis la fois où elle est allée à un meeting, qu'elle a fait demi-tour au milieu pour aller ensuite à la télé, bon peut-être que les gens
ça a énervé un peu.
Ça a énervé. Hein. Alors Madame Pécresse, elle essaye aussi d'aller dans les territoires, comme on dit, pour se faire adorer, pour se faire connaître et pour raconter des choses, et puis surtout pour sortir du rôle de l'élu politique de droite en costume tailleur qui en fait ne connaît pas le bas-peuple. Donc Valérie, elle s'est mise en scène et elle a posté une vidéo qui a depuis un peu disparu, il faut le dire tout de suite.
Ah, donc, elle l'assume pas.
Faut dire qu'elle a fait une vidéo en expliquant il est 5h et nous partons dans le Doubs. Sauf qu'il y a des gens qui lui ont répondu « Moi, madame, je me lève tous les matins à 4h30, donc si tu veux, à 5h, je suis déjà dans mon bagnole, sur mon vélo. Qu'est-ce que tu viens nous dire que tu te lèves tôt ?» Enfin, ta petite vie de candidate politicienne, voilà, parce qu'elle a essayé de faire des traits d'humour en expliquant que elle avait la vraie vie d'une candidate et qu'elle ne vole pas dans un Falcon de la République. Falcon, je vous rappelle, c'est
un petit avion.
Les avions de la République dans lequel M. Macron se balade.
En tant que président, oui.
Et dans lequel elle pourra se balader si elle gagne demain la présidentielle. Donc, bon, au-delà du fait qu'elle est un peu faux cul, il faut le dire quand même, parce que les mecs, là, ils sont tous, et les nanas, ils sont tous en train de vous dire que, par exemple, le fait de ne pas avoir les parrainages, c'est très nul, il faut faire comme ça. Mais n'empêche qu'il n'y en a pas beaucoup qui demandent à les enlever, parce qu'il ne faudrait pas non plus pouvoir s'abîmer une prochaine fois. Et puis, tous ceux et toutes celles qui les ont d'avance se disent, oulala, alors attends, moi, je ne vais pas aller dans une démocratie directe où tout le monde pourrait venir, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, elle a fait sa petite vidéo qui a un peu agacé, ce qui fait que du coup elle a enlevé cette petite vidéo puisque ça a amené que des réactions négatives sur l'histoire de je me lève à 5h du mat, oh là là, t'as vu comment je souffre, c'est absolument terrible. Donc ça c'est un ratage, il va y en avoir plusieurs pendant la campagne, mais c'est un très très gros ratage de Madame Pécresse. Alors, il faut dire que depuis son histoire de Kärcher, ça a pas mal aussi réagi. Et la marque Kärcher a publié plusieurs publicités avec des textes dans les médias papier pour expliquer que l'entreprise se désengage de tout parti politique et de tout débat politique et ne veut être assimilée à personne.
Oui, ce n'est pas une marque de droite ou d'extrême droite. Ils y sont pour rien, je crois, les pauvres.
Je ne connais pas du tout. C'est une marque familiale. Je ne sais pas du tout derrière ce qu'il
en est de la famille. Non, mais il n'y a pas d'idée politique dans le nettoyage de
la
pression.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réaction. Parce qu'on pourrait dire, ça fait parler, Kärcher. Vous savez, des fois, du coup, ça vous fait de la pub. Sauf que là, c'est ce qu'on appelle un bad buzz. Hein. Voilà, parce que moi, je me suis dit, si je dois acheter demain un truc pour
un nettoyeur haute pression.
Nettoyeur haute pression. Je suis devant le Karcher, j'y réfléchis deux secondes.
Tu te dis merde, j'achète un truc
alors
de droite.
Après, il y a plein de gens qui vont pas y réfléchir, au contraire, qui vont se dire ah, ça c'est vachement bien, regarde, on va vachement bien nettoyer les dalles en béton de la maison. Mais il y a peut-être aussi des gens comme moi qui pourraient y réfléchir deux secondes. Donc Karcher a dû se dire, il y a des gens comme Delphine à la radio là, elle va jamais acheter notre Karcher. Donc on va lui mettre des petits messages.
Pour dire, on fait pas de politique.
Donc on s'associe pas à qui que ce soit. Mais déjà à l'époque, hein, quand Monsieur Sarkozy avait ressorti cette histoire, il y avait déjà eu de la publicité de la part de cette marque allemande pour dire on se désengage, on ne veut être lié à personne. Voilà, mais c'est vrai que...
Ça fait rire, quoi.
Du coup, c'est une obligation qui pourrait être une bonne idée de pub, mais qui en même temps, on n'est pas sûr que ça soit vraiment de la pub. Et puis, avant de terminer avec M. Zemmour, je vais prendre mon temps pour vous parler du soutien de Mme Pécresse, si vous voulez bien. Elle s'appelle Mme Anne-Laure Blin. Alors, elle est un peu connue, parce qu'elle a fait plein de sorties. Du coup, elle est députée dans le Maine-et-Loire. Je vais revenir un petit peu. Alors, depuis dimanche, elle fait pas mal parler d'elle, Mme Anne-Laure Blin, parce qu'il y a une vidéo qui était diffusée, qui date d'il y a déjà quelques temps, sur LCP, qui est ressortie. Parce qu'il y a des gens, c'est des vilains. Et vont sortir les petites vidéos qui vont bien. Et alors, ça a fait un bruit. Elle emploie en plus un mot qui a agacé. Elle a parlé d'une doxa populaire. Et de quoi donc elle s'agace? Elle s'agace de tous ceux qui amènent cette doxa populaire qui dit qu'il faut acter le réchauffement climatique.
Ah bah, et du coup, elle remet en cause, il y en a encore?
Oui.
Oh merde.
Elle disait dans cette vidéo, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique,
ah bah
je souhaite
toi,
avoir un certain nombre d'éléments qui prouvent cette question du réchauffement climatique.
Ah bah on va lui donner les milliers d'études qu'il y a dessus, ma petite dame.
Donc elle avait un contradicteur en face d'elle sur LCP, qui lui a dit qu'il y avait des études justement, ouais. C'est le contraire, ça... Elle s'en fout. Donc là, elle a fait. Je suis allée sur son site internet.
Elle peut lire le rapport du GIEC, pour le coup, qui est disponible facilement, plus facilement lisible que les études.
Oui, mais elle expliquait qu'elle n'était pas climato-sceptique, mais climato-réaliste. Donc moi, je suis allée chercher son communiqué. Hein.
C'est le nouveau terme des climato-sceptiques, ouais. Ça. Ouais.
Typiquement, elle fait partie de cette droite conservatrice qui veut absolument pas remettre en question l'activité
capitalisme,
humaine, ouais. Et le capitalisme. Alors. J'ai été donc chercher, comme je vous le disais, sur son site internet un certain nombre de ses sorties et propos. Donc là, elle a sorti cette semaine un texte. Face au dogmatisme, la seule écologie qui vaille est celle qui est réaliste et positive. Donc c'est la rubrique environnement. Et là, donc on sent qu'elle est un petit peu agacée. La campagne a bel et bien commencé. Alors que ce temps devrait ouvrir un temps de débat, certains préfèrent invectiver et attaquer. Reprenant hors de son contexte un morceau d'une de mes interviews données à LCP il y a plus d'un an, certains se sont amusés durant les dernières heures à tourner en dérision certains propos pour lancer tout simplement une polémique politicienne. Cible d'un acharnement sur les réseaux sociaux de la part de certains écologistes jusqu'aux boutistes, je souhaite apporter les précisions suivantes. Bon, déjà là, nous parle des Khmer Verts, hein, ouais, parce que l'écologiste jusqu'aux boutistes.
Je me sens un peu visé là, mais.
C'est le côté un peu poli pour dire les Khmer Verts. Donc elle dit, depuis le début de mon mandat, j'ai toujours eu à cœur de promouvoir une écologie de réalisme. Je sais pas ce que c'est comme le football, j'ai jamais compris.
Le réalisme, on ne sait pas ce que c'est. Ouais.
Voilà, j'ai toujours eu à cœur de promouvoir une écologie de réalisme et de bon sens pour guider l'action collective afin de protéger notre environnement et de garantir l'avenir de nos enfants. Elle est de droite conservatrice, donc il faut placer le mot enfant, c'est toujours bien. Je revendique sur ce sujet, comme sur d'autres, le droit au débat et à la discussion sans devoir toujours obéir au diktat de la pensée unite. Là encore, on fait référence aux Khmer Verts. En particulier sur ce sujet, l'instrumentalisation par certains écologistes politiques du réchauffement climatique pour aller toujours plus loin dans les contraintes normatives et financières des Français et des entreprises françaises. Alors moi, je veux bien avoir un politique écolo qui aujourd'hui va très loin dans des contraintes, je vais dire.
On ne les connaît pas encore. Hein.
Non, on ne les connaît pas encore.
Ils sont gentils.
Mais si vous les connaissez, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous, on sera très heureux d'avoir une petite discussion. Dans ceux qui sont élus aujourd'hui, pardon, hein, je reviens, mais
c'est quand même
la radicalité, elle est elle est fleur, juste qu'on a tellement peu l'habitude d'avoir des...
De l'écologie,
que du coup, tout le monde est surpris.
Des micro-mesures, ça paraît radical.
Elle continue. J'assume parfaitement défendre nos producteurs de fruits et légumes français face aux incohérences et à l'écologie punitive. Ces producteurs sont par exemple assujettis à des normes toujours plus contraignantes au nom de la suppression du plastique, alors que dans le même temps, il sera admis des importations de produits étrangers sous emballage plastique. Je défends avec conviction le monde rural, sa culture et ses traditions, notamment les chasseurs, éleveurs, circassiens, qui sont souvent en proie aux actions violentes d'activistes prêts à détruire et attaquer les acteurs de la biodiversité et de l'équilibre des espèces.
Alors, les agriculteurs, en termes de biodiversité, ça se pose là. Hein, quand ils font des monocultures, c'est compliqué.
Mais les chasseurs, ils régulent.
Et les chasseurs, ils régulent de rien.
Et les circassiens, ouais. Nous allons y revenir. Si
oui,
vous
parce
bien.
Que ça,
je vais revenir. J'œuvre aussi à la transmission d'une écologie de bon sens, on y revient toujours, auprès de la jeunesse, nos fameux enfants, sans tomber sous une doxa qui voudrait réduire l'homme, avec un grand H, à son empreinte écologique et à ses actions néfastes pour l'environnement. Tant mieux, je me sens pas visée du coup. En définitive, malgré les tentatives de déstabilisation, je continuerai à m'engager dans la voie du débat respectueux, revendiquant la possibilité d'exprimer haut et fort la voix des Français, qui perçoivent à l'évidence que l'écologie est devenue, pour certains, un moyen politique de véhiculer une idéologie nauséabonde et anti-humanisme. Ça se termine par ça quand même.
Putain, c'est l'horreur. Quoi.
Voilà. Elle est juste pas climato-sceptique.
Elle est de droite.
Elle est absolument pas sceptique. Enfin, je veux dire.
Non, elle est anti-écolo, quoi.
Voilà. On est très clair. Ensuite, elle est très connue quand même parce que elle nous a sorti d'autres petites choses. Anne-Laure Blanc, je me suis baladée donc et j'ai retrouvé tous ces petits documents sur la proposition de loi qui concernait l'IVG avec c'était en février 2021 où il y avait 500 amendements qui avaient été déposés histoire de bloquer un peu les processus. 423 avaient été déposés par les Républicains, elle en avait déposé elle toute seule 90.
Donc c'était une loi qui permettait d'augmenter le délai notamment sur le droit à l'IVG. Donc un truc qui va dans le sens du droit des femmes à disposer de leur corps. Donc elle, en plus, elle est antiféministe, quoi. C'est une sorte d'homme déguisé en femme qui fait passer des lois contre.
Alors il y avait un texte effectivement sur lequel qui a été retiré, qui avait été déposé par le groupe socialiste à l'Assemblée. Ça l'avait beaucoup énervé. Et je vais vous passer l'introduction qui raconte ce que je suis en train de vous dire. Elle nous explique, en choisissant d'examiner une dizaine de textes, le groupe socialiste savait pertinemment qu'il ne parviendrait pas à tout examiner. En plaçant un sujet sensible dès le début de la journée, déjà c'est leur faute, le groupe socialiste avait également bien conscience que les débats allaient appeler les échanges de points de vue sur le fond, occupant une bonne partie de la journée. Sauf à méconnaître le fonctionnement du Parlement, les socialistes accusent la droite d'obstruction alors qu'ils ont eux-mêmes provoqué ce cafouillage parlementaire. La vérité est que le groupe ne voulait pas débattre au fond, mais passer en force et éviter toute discussion parlementaire. Sur le fond, la proposition de loi souhaite lutter contre la persistance d'avortements tardifs, c'est-à-dire au-delà de 10 semaines de grossesse. Selon l'adresse, ces IVG tardives ne représentaient que 5% des IVG pratiquées en France en 2017. Donc là, ça semble déjà être un argument que, vu que c'est pas majoritaire, pourquoi donc vouloir absolument faire passer des textes qui ne vont concerner qu'une minorité de femmes, hein, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, en outre, ce texte souhaite également allonger les délais légaux de 12 à 14 semaines, mais aussi et surtout la suppression de la double cause de conscience spécifique à l'IVG, et ce qui signifiera la suppression du délai de réflexion entre l'entretien psychosocial et le recueillement du consentement. Ces histoires de consentement et de double consentement, d'accord d'une autre partie que la femme, on se bat depuis longtemps pour que ça cesse.
Ouais, c'est un des prétextes pour arriver à mettre la pression sur les femmes pour qu'elles changent d'avis. Et elle est du côté anti-IVG. Du coup, elle peut pas le dire officiellement. C'est plus compliqué. Donc, elle attaque toutes les choses qui font améliorer les lois pour que les femmes...
Je vais vous lire un dernier texte de paragraphe de ce texte. Il nous apparaît que ce texte, au-delà de ne pas vouloir concilier, reconnaître le droit à l'avortement et le droit à la vie d'un être, souhaite surtout adopter des positions idéologiques en refusant de reconnaître et de comprendre que l'avortement peut avoir un impact sur la santé des femmes, tant psychologiquement, moralement que physiquement, mais également sur les personnels de santé appelés à effectuer des actes chirurgicaux plus lourds.
Ouais, non, mais c'est bon.
Voilà, je vais arrêter là sur ce texte.
Et puis, elle est donc anti-IVG.
Pour terminer, hein, je vous parlais des circassiens tout à l'heure, elle a été la seule députée LR à s'opposer à la loi contre la maltraitance animale.
Ouais.
Son texte, alors c'est marrant parce que son texte s'appelle Maltraitance animale, je dis non à l'interdiction des cirques avec animaux, ça date du 25 janvier.
Elle est encore sur un combat comme ça, elle.
Et c'est dans la partie culture et patrimoine.
Donc, ouais.
Donc elle défend donc les entreprises du cirque à continuer à avoir des animaux. Elle comprend pas. Mais vraiment, les circassiens aiment leurs bêtes, vivent avec elles depuis des générations. Ouais. Réduire leur activité à de la maltraitance, c'est une profonde erreur. C'est pas ça que dit le texte.
Non, puis enfermer des animaux, les priver de la liberté, c'est déjà un acte de maltraitance quelque part. Hein.
Je m'engage, car je crois qu'il faut que nous soyons conscients que la prochaine étape sera l'interdiction des animaux dans les parcs zoologiques. Ouais. Comme cela a commencé avec les delphinariums, ou encore l'interdiction de la chasse, pour ensuite condamner toute personne qui détiendrait un animal de compagnie au grand dam de tous les animaux, des amoureux des animaux. Non mais, t'imagines, tu pourras plus avoir de chat chez toi, d'après Anne-Laure Blin.
Ah, c'est bizarre.
Si jamais on part donc des animaux de cirque.
Ouais, pour
de
dire,
la maltraitance animale.
Vous aurez plus le droit d'avoir un chat ou un chien.
Et on arrive
ou un poisson
à ça.
Rouge.
Donc c'est une conservatrice. Hein,
Ah ouais, elle est quand même.
Elle est quand même loin.
Elle
et donc
très,
ça c'est
très loin,
le soutien
elle.
De Madame Pécresse. Dans le Maine-et-Loire, comme je vous le disais. Donc, Madame Pécresse est extrêmement bien entourée, comme vous pouvez le voir.
Si, attendez, oui.
Hein, quand... Ah bah oui, mais il faut quand même le rappeler assez fréquemment. Et puis, avant de te laisser la parole pour terminer, juste pour dire que Monsieur Zemmour donc a donné ses vœux aux journalistes dans une petite conférence de presse, donc dans son QG dans le 8e à Paris. Et on sait qu'il n'aime pas les journalistes. Hein,
ouais, si on se demande pourquoi il fait ça du coup. Ouais. Enfin, donc... si, il a tous ses amis journalistes quand même. Il y en a plein dans la presse d'extrême droite, tout ça. Là.
Oui, mais il y en a plein d'autres qui l'aiment pas. Donc
c'est
il a fait des vœux.
Même dans cette presse-là.
Je trouve moi assez agressif. Il était donc entouré du fameux Guillaume Pelletier.
Ah, il était déjà là.
De Philippe de Villiers. Oui.
On a sorti deux couteaux.
Et de Jacqueline Mourot qui suit des gilets jaunes. Et donc il a vomi pendant pratiquement 20 minutes sur les journalistes dans ce qui est quand même une rencontre assez insultante, moi je trouve, hein, aussi. Donc déjà, il leur a dit « Dans un an, je vous inviterai à l'Élysée. »
Ouais, ok.
Bah écoute, si tu t'y vois déjà, c'est important. « Nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec admiration, respect, sollicitude et même un brin d'hypocrisie. » Il essaye de faire de l'humour hein, dans toute cette conférence de presse, mais enfin quand même, il est en train de leur dire que vous, admiration, respect, sollicitude, vous allez fermer votre grande gueule. Moi, c'est ce que je lis. Alors après... il dit, j'étais l'un d'entre vous, mais j'étais différent aussi. Bah, t'étais peut-être pas journaliste, peut-être aussi ça les faire. Pour trois raisons. J'étais de droite, ensuite je parlais, j'écrivais le français, alors que votre langue maternelle est le politiquement correct. Enfin, j'étais populaire. Et il dit, les journalistes sont les personnes les plus détestées de France, qui ne vous aiment pas, le peuple, mes bons amis, et il a raison de vous en vouloir. Voilà. Et alors, donc, les journalistes, a priori, quand tu lis un peu le compte-rendu de ce grand moment, ont tous et toutes étaient parfaitement heureux et heureuses d'assister à ce grand moment, de se faire insulter. Et puis, il a terminé sur l'école, comme ça, puisque c'était une bonne journée aussi. C'était le 8 hein, qu'il a fait cette déclaration, donc lundi. Il a expliqué que donc, il fallait revenir à la blouse. Qu'il n'y a pas de nation prospère sans une école qui transmet les savoirs et sans une école qui permet de viser l'excellence.
Hein? Ouais.
Voilà. Il a expliqué aussi que la blouse est donc un symbole d'égalité, qu'il voudrait rebaptiser le ministère de l'Éducation nationale ministère de l'Instruction publique. Et il a plein d'idées. Hein. Et qu'il faut sortir d'une école qui endoctrine nos enfants, je le cite, sous la pression des idéologues, des idéologies, excusez-moi, féministes, antiracistes, LGTB. Ou LGBT, dans le sens que vous y voulez. Donc un grand moment de liberté, d'égalité, hein, de fraternité et de sororité. Je veux dire, je pense qu'on va se marrer un grand coup s'il gagnait. Donc il veut modifier l'éducation nationale, modifier les programmes aussi, puisque les livres devront être parfaits, pour être utilisés dans les écoles et sur les programmes. Qu'il ne va pas y avoir un pet qui va devoir dépasser après la virgule.
En même temps, c'est ce qui se passe depuis toujours. L'école, c'est un truc idéologique qui a été formé pour endoctriner les populations, pour faire qu'il n'y ait plus... Je rappelle, hein, Jules Ferry, on rend l'école obligatoire pour qu'il n'y ait plus jamais de révolution. C'est-à-dire que pour... le peuple ne se rebelle plus. C'est de ça dont est issue l'éducation nationale. Donc, il reprend ce truc-là. Et on avait un peu plus de liberté, notamment pédagogique. Lui, il veut revenir sur toutes ces libertés-là.
Et c'est quand même une école un peu vieillotte qu'il est en train de nous proposer.
Ouais, c'est un peu les années 50.
Sans démocratie et sans libre pensée.
Oui.
Voilà. Mais en toute simplicité. Hein.
Oui, bon, il n'est pas si loin qu'une de Blanquer que ça, hein, tu sais.
Allez, il te reste un peu moins de 8 minutes, s'il te plaît.
Eh bien, je vais faire une petite rubrique énergie et environnement. On va commencer par le retour du fils de la vengeance de l'obligation du port du casque à vélo. Chaque fois, tous les ans ou tous les deux ans, on a un imbécile anti-vélo qui essaye de refaire passer cette loi. Donc là, on est au Sénat, cette fois-ci. C'était aujourd'hui hein, que ça s'est passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est dit. Du coup, j'ai pas suivi. Donc voilà, l'idée, c'est d'imposer le casque obligatoire pour tout, je cite, conducteur d'un véhicule à une ou plusieurs roues, qu'il soit à moteur ou à assistance électrique, ainsi qu'à tout conducteur de cycle. Alors si on prend ça, ça va marcher pour les voitures et les camions aussi, mais en fait non, hein, faut pas non plus délirer. Sous peine d'une amende de 135 euros. Alors c'est François Bonneau, qui est un sénateur anti-vélo, soi-disant centriste, avec ses amis, hein, il n'était pas tout seul, des amis sénateurs dits centristes, qui veut faire ça. Alors il explique, on peut considérer que c'est une contrainte, mais on peut aussi donc considérer que c'est un geste qui peut vous sauver. Et là, il va très loin et dit, pourquoi est-ce que, sur le Tour de France, tout le monde porte un casque? Il ne faut pas penser que ça arrive qu'aux autres, les accidents, du coup, il faut que tout le monde porte un casque. Alors si on prend son argumentaire, les sportifs à vélo portent un casque, c'est une réalité. Bizarrement, si vous regardez les statistiques, quel type d'accident entraîne le plus de commotion, enfin de blessures à la tête? C'est pas les accidents de vélo, c'est pas les accidents de trottinette, c'est pas les accidents de ski, c'est les accidents de voiture en fait. Et si on prend sa remarque, ben les sportifs en voiture, en Formule 1, en rallye, tout ça, ils ont des casques. Donc, en fait, si on suit et la démarche sanitaire et son argumentaire, regardez les sportifs, ben en fait, c'est dans les bagnoles qu'il faudrait mettre le casque. Et ça, on le sait depuis longtemps. Alors, on sait, c'est un militant anti-vélo, du coup, on a bien compris le truc, puisqu'il y a plein d'études qui ont montré que c'est, imposer le casque, même si c'est... Moi je pense qu'il vu les bagnoles, il faut mettre un casque.
Oui, parce qu'en fait, sans dangers. Bagnole, on ne sera pas obligé de mettre un casque, sauf si tu rentres bourré sur ton vélo, oui, et tu te prends un trottoir et tu te cognes.
En fait, c'est ça.
C'est bien la voiture qui est le danger.
La circulation, aujourd'hui, elle est dangereuse à cause des voitures, donc on a... effectivement, besoin d'un casque. Il y a un tiers des cyclistes en ville qui le portent.
Par sécurité aussi.
Voilà, dont moi, maintenant, toi, depuis quelques années, pas longtemps, j'ai eu un truc où je me suis fait peur et je mets un casque. Mais, on rappelle, c'est parce qu'il y a les voitures.
Ouais.
Les Pays-Bas, très exactement, plutôt, qui ont une pratique du vélo bien plus importante que nous, il n'y a que 2% des cyclistes aux Pays-Bas qui ont un casque. Parce que c'est sécurisé, le vélo. Les voitures sont pas dangereuses, moins dangereuses. Donc en fait, c'est ça le problème. Ça a énervé même le président de la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, qui a quand même le bisounours du vélo. Même lui, il a dit, c'est pas possible, faut arrêter, ça revient tout le temps. C'est le problème. Le problème, c'est la voiture, c'est pas les vélos. Donc voilà, c'était juste un truc drôle qui est arrivé. Je vais aller vite, parce que sinon je vais pas avoir le temps de tout faire. L'Écosse vient de donner un exemple à tous les ingénieurs pro-nucléaires français. L'Écosse vient de ridiculiser Emmanuel Macron en une demi-seconde. En 2011, l'Écosse s'était fixé comme objectif d'atteindre 100% de production électrique, de consommation électrique issue d'énergie propre. On en est aujourd'hui, en 2020, et ils sont à 97,4%. La France est à moins de 20%. Pas mal, quand même. Donc, ils ont fait beaucoup de choses. Alors, ils ont un mix qui correspond à ce qui marche. Ils n'ont pas mis des panneaux solaires. En Écosse, il n'y a pas assez de soleil. Mais ils ont mis des éoliennes, ils ont de l'hydraulique, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils arrivent à ce chiffre-là. Alors, il y a une petite astuce technique quand même. Ça, c'est ce qu'ils consomment. Par contre, ils produisent encore des trucs un peu pourris en termes d'électricité, mais ils l'exportent. Notamment en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, là. Enfin le truc en dessous là. Hein. Donc, parce qu'ils ont encore 4 centrales nucléaires, il y en a une qui est en démantèlement, et une qui est en phase de transition, donc il ne restera plus que 2, puis après ils vont les fermer. Hein. Il reste une centrale à gaz encore, donc voilà, ils basculent petit à petit, mais ce qu'ils consomment chez eux, c'est quasiment que du renouvelable. C'est juste pour montrer que, en fait, c'est politique, il suffit de volonté politique. Les ingénieurs écossais sont suffisamment bons pour avoir fait cette transition. Les ingénieurs proches de Macron, de Zemmour et des autres sont pas capables de faire ça. Allez comprendre pourquoi. Ils doivent être beaucoup moins bons. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est la taxonomie. On en avait parlé le 31 décembre, c'est officiel. Le gouvernement français a fait pression pour que le nucléaire soit dans la taxonomie verte. Ils y sont pas arrivés. Mais ils sont dans une taxonomie intermédiaire dite de transition. Ça va permettre à l'Europe de financer les centrales nucléaires françaises. Ça va permettre à la France de continuer de sous-investir dans les énergies renouvelables. Ça va permettre à la France de continuer de produire des déchets radioactifs dangereux pendant des milliers d'années dont on ne sait que faire. Tout ce qui est en train de se passer, ça marche pour le gaz. Macron et les nucléophiles sont arrivés à instrumentaliser la politique européenne pour continuer de saccager la planète. Et ben voilà, c'est beau, c'est dit. L'écologie de droite, ça s'appelle, hein, quand on valide des produits qui détruisent la planète. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon après je vais m'énerver.
Taxonomie, vous savez tous et tout ce que c'est ? Non, je...
Vas-y, fais-nous la définition.
Bah, non, justement, j'en suis bien incapable. C'est ce que j'étais expliqué avant, que j'en étais, je crois, pas capable de donner une définition claire et objective sur ce qu'était la taxonomie.
Donc là, la taxonomie, c'est de définir les termes qui vont être associés à une énergie verte, une énergie de transition et une énergie grise, enfin noire, qui pollue, tout ça pourrit. Voilà. Et c'est donc la définition des mots et des pratiques associées à ce type d'énergie.
Et ben comme quoi on en apprend.
Voilà, alors le vrai définition même, okay. de toxicologie, non pas du tout, de taxonomie, je vous laisse chercher dans vos dictionnaires.
Ok.
C'est bientôt 20h,
ben
dans une minute. Ouais.
On se retrouvera nous la semaine prochaine.
Et, bien exactement.
Évidemment, hein. Des fois je dis ça, puis des fois on n'est pas là, vous avez remarqué.
Oui.
Mais là on a dit qu'en 2022 on était hyper sage et hyper présent. Donc nous serons là la semaine prochaine, il y a des canuts info du lundi au vendredi. Et puis on va vous laisser avec une autre émission derrière nous. Si tout se passe bien. Et
ils sont là, je les vois.
Et ben tant mieux, écoute.
Ils arrivent.
On vous dit ciao ciao.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Petit bout de bande continue avant qu'ils prennent l'antenne.
Tranquillou.
Quand j'étais môme, pourquoi je suis dans le mauvais camp? Le mien fait ramadan.